Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Québec n'est pas à l'abri des pénuries d'eau. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 10 octobre 2024 dans Le Devoir. L'amplification de la crise climatique provoque de plus en plus de dérèglements des cycles de l'eau dans le monde, avertissait lundi l'ONU. Le Québec n'est d'ailleurs pas à l'abri des inondations et des sécheresses imputables au réchauffement du climat planétaire. L'eau devient de plus en plus imprévisible et les signaux d'alarme sont impossibles à ignorer, a déclaré lundi Céleste Solo, secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, une agence de l'ONU. Dans un nouveau rapport, l'OMM insiste ainsi sur une aggravation à l'échelle planétaire de l'insuffisance des ressources en eau. Examinant les données sur 33 ans, l'organisation a constaté que les cours d'eau de la planète avaient atteint l'an dernier un niveau de sécheresse jamais vu sur cette période. L'année 2023 ayant été la plus chaude jamais enregistrée, les températures élevées et la faiblesse généralisée des précipitations ont contribué aux sécheresses prolongées. Le rapport de l'OMM montre aussi que le débit d'environ 50% des cours d'eau du globe a été inférieur à la normale en 2023. Et l'apport dans les réservoirs, tels que les barrages, a été sous la normale dans de nombreuses régions du monde au cours des 5 dernières années. Résultat de cette raréfaction qui s'amplifie. 3,6 milliards de personnes ont un accès insuffisant à l'eau au moins un mois par an et leur nombre devrait dépasser les 5 milliards d'ici à 2050, selon l'ONU. À l'inverse, les crues se sont elles aussi multipliées sur la planète. Les événements hydrologiques extrêmes ont été favorisés non seulement par des facteurs climatiques naturels, mais également par la crise climatique provoquée par l'activité humaine. Risque au Québec. Le Québec n'est d'ailleurs pas à l'abri des impacts climatiques sur l'eau, une ressource pourtant généralement considérée comme étant inépuisable au Québec, souligne François Antil, professeur titulaire au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval. Nos rivières vont connaître de plus en plus souvent des débits faibles en période estivale, prévient-il, notamment en raison de la baisse du couvert de neige qui alimente les cours d'eau au printemps et de la hausse continue des températures qui peut être 2 ou 3 fois plus importante au Québec que la moyenne mondiale. Ces périodes dites d'étiage risquent d'ailleurs de représenter des défis de gestion auxquels nous ne sommes pas préparés, ajoute M. Antil. Nous sommes très mal équipés pour gérer les sécheresses. Nous n'avons pratiquement aucune règle ou procédure, par exemple pour contraindre citoyens et entreprises à réduire leur consommation d'eau. Selon une étude récemment publiée par Recyc Québec et produite en collaboration avec l'organisme international Circle Economy, un Québécois moyen consomme plus de 570 litres d'eau potable par jour par rapport à 130 litres par jour dans un pays comme la France. Au-delà des règles qui seraient nécessaires afin de mieux protéger nos ressources en eau, M. Antil estime qu'il est important de réfléchir dès maintenant au développement d'infrastructures qui nous aideraient à faire face à d'éventuels épisodes de disette, par exemple des réservoirs, afin de stocker au printemps de l'eau qui pourrait être utilisée durant l'été. Les risques évoqués par François Antil ont déjà été identifiés. Le rapport Perspective régionale, financé par le gouvernement fédéral et rédigé principalement par des experts du consortium scientifique Ouranos, concluait en 2022 que le Québec risquait de faire face à des pénuries d'eau dans les années à venir. Des épisodes de baisse des niveaux d'eau plus sévères et plus longs risquent d'affecter la disponibilité et la qualité de l'eau potable au Québec, soulignait le rapport. L'augmentation des étiages, notamment dans le fleuve Saint-Laurent, pourrait causer des dégâts considérables compte tenu du fait que ce fleuve est la source d'approvisionnement en eau potable de près du tiers de la population québécoise. le manque d'eau risque aussi d'avoir un impact sur l'irrigation des terres agricoles et la navigation commerciale. Une telle situation s'ajouterait aux nombreuses pressions anthropiques déjà existantes, telles que l'industrialisation, l'urbanisation, les activités agricoles, la villégiature et l'absence ou l'insuffisance de certains systèmes de traitement des eaux usées qui, au fil des ans, ont détérioré la qualité des eaux, affirme-t-on dans le document. C'était « Le Québec n'est pas à l'abri des pénuries d'eau », un texte d'Alexandre Shields paru le 10 octobre 2024 dans Le Devoir.
Les campements de fortune sont-ils légaux dans les espaces publics? Un texte de Richard Sabé, d'après un texte original d'Emily Brass, paru le 12 septembre 2024 sur Ici Manitoba. Teresa Bauer vit dans un campement, dans une minuscule tente sous un pont le long de la rivière Assiniboine. C'est plutôt merdique, reconnaît-elle en bâillant, après avoir été harcelée la veille dans le camp. J'aimerais avoir mon propre endroit. Alors qu'un nombre croissant de campements de fortune apparaissent dans des espaces publics à Winnipeg et dans tout le Canada, les gouvernements et les tribunaux sont poussés à redéfinir les règles qui les encadrent pour trouver le juste équilibre entre les droits et les besoins des personnes en situation d'itinérance et ceux des gens qui vivent autour d'elles. Le dernier recensement effectué par End Homelessness Winnipeg en 2022 a révélé qu'environ 1300 personnes vivaient dans la ville sans abri. Or, selon les plus récentes estimations du groupe, elles pourraient être jusqu'à 4000. De nouvelles politiques publiques, souvent guidées par des décisions juridiques et la Charte canadienne des droits et libertés, suggèrent un droit de ne pas être expulsé des espaces publics, à moins qu'il y ait des abris appropriés pour répondre aux besoins des personnes vivant dans les campements. À l'échelle internationale, le logement a été reconnu comme faisant partie du droit à un niveau de vie suffisant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle le Canada a adhéré. À l'échelle nationale, la Loi sur la stratégie nationale sur le logement a été promulguée en 2019, reconnaissant le logement comme un droit fondamental de la personne. Entre-temps, des juges ont statué que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, inclut le droit à un logement suffisant, même si ce logement se trouve dans un campement temporaire. En 2008, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a créé un précédent dans l'affaire Victoria contre Adams en établissant deux critères clés pour l'expulsion. Citation. Le premier critère est que cela s'applique la nuit, car la Cour a noté que dormir est un droit humain fondamental, essentiel à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Fin de citation, explique Alexandra Flynn, professeur de droit à l'Université de la Colombie-Britannique. Citation. Le second critère est que les places dans les refuges soient accessibles et en nombre suffisant pour accueillir les personnes qui seraient expulsées. Fin de citation. Cela signifie que les municipalités doivent prouver devant le tribunal que les personnes qu'elles veulent expulser d'un campement disposeraient d'un logement répondant à leurs besoins individuels. À Winnipeg, la ville n'expulse que les occupants de campements situés sur des propriétés privées ou qui présentent un risque immédiat pour la sécurité, ce qui n'est pas sans créer certaines frictions, alors que de nombreux Winnipegois se plaignent de ne pas pouvoir profiter des parcs où des campements sont érigés. Citation. Nous ne pouvons pas mettre sur le même plan les personnes qui utilisent le parc pour leurs loisirs et celles dont la vie est menacée. Nous devons accorder plus d'importance aux personnes dont la vie est menacée. Fin de citation, soutient Mme Flynn. Teresa Hunter, qui vit près de certains campements longeant la rivière Assiniboine, dont celui où se trouve Mme Bauer, dit avoir contacté la ville des centaines de fois au sujet d'incendies, de déchets et de comportements agressifs. Son mari, raconte-t-elle, ainsi que plusieurs résidents du quartier aurait été menacé et agressé par des personnes vivant dans ces campements. Citation. « Quelqu'un lui a demandé un briquet, raconte-t-elle. Il n'en avait pas et on lui a brandi une petite hache. » Fin de citation. Il est temps que la ville passe de la parole aux actes, soutient Mme Hunter, qui souhaite que les gens quittent le campement. Citation. « Cela fait 5 ans qu'on en parle, dit-elle. Nous n'avons pas vu grand-chose d'autre que l'agrandissement des campements. » Fin de citation. La ville doit en faire plus, insiste Mme Hunter. Citation. « Les gens ont besoin d'un abri et de soutien. » Fin de citation. Adéquat et accessible. Un soutien adéquat est un élément fondamental d'une approche émergente qui guide la réponse du Canada au sans-abrisme. Les logements doivent répondre aux besoins de chaque individu, qui peuvent aller de l'autorisation d'avoir des animaux de compagnie à la possibilité de consommer des drogues. Ce type de besoin découle de la notion juridique de logement adéquat ou accessible. Citation. Les gens ont besoin d'une sécurité d'occupation. Le logement doit être habitable. Pour les Autochtones, il doit être adapté à leur culture. Fin de citation, explique Marie-Josée Houle, qui a été nommée première défenseur fédérale du logement au Canada en février 2022. Mais en attendant que des logements adéquats et accessibles soient disponibles, les gouvernements ont l'obligation de fournir de l'eau potable, un endroit pour cuisiner et un endroit pour se réchauffer ou se rafraîchir, soutient Mme Houle. Citation. « Nous savons que les campements ne sont pas la solution, dit-elle, mais la solution au campement est un logement adéquat. » Fin de citation. Pour Mme Bauer, qui dit avoir vécu principalement dans la rue depuis qu'elle s'est enfuie de foyers d'accueil abusifs à l'âge de 12 ans, une des conditions pour obtenir un logement pourrait être de vivre près de sa famille. Elle a récemment retrouvé des membres de sa famille à Winnipeg qui vivent désormais dans le même campement qu'elle. Citation. « Je reviendrai probablement ici si je trouve un logement. » Fin de citation, dit Mme Bauer, dont la famille est originaire des Premières Nations Pimicikamak et Pukatawagan, dans le nord du Manitoba. Entre-temps, certains voisins, comme Mme Hunter, affirment que les campements enfreignent souvent les règlements municipaux en matière d'incendie et d'hygiène. Cependant, les tribunaux ont estimé que ces règlements étaient moins importants que le droit constitutionnel à la vie des campeurs. Plutôt que d'employer une stratégie de répression, certaines villes, dont Winnipeg, prennent des mesures pour atténuer les risques que les règlements sont censés prévenir. Les pompiers et la police effectuent des contrôles réguliers et le Downtown Community Safety Partnership, DCSP, a lancé au printemps un programme de nettoyage. Citation. « Nous ne nous immisçons pas dans leur vie privée. » Fin de citation, explique Sayum Singh, qui dirige l'équipe. Citation. Nous essayons simplement de venir ici et de leur donner des dons, des sacs poubelles. Fin de citation, dit-il. Citation. Cela les motive à nettoyer leur espace et c'est ainsi que nous pouvons construire une relation avec eux. Fin de citation. En cultivant ces relations, M. Singh espère aider les travailleurs sociaux à offrir un logement qui convient aux résidents de campement. Mme Bauer dit en effet que des travailleurs sociaux parlent de lui trouver un logement ainsi qu'aux autres campeurs, mais que cela ne s'est pas encore produit. Citation. « Ce n'est pas facile de trouver un logement, dit-elle. Certains souffrent d'anxiété sociale. Beaucoup ont peur de parler aux travailleurs. » Fin de citation. Un endroit sûr. Bernadette Smith, ministre manitobaine du logement, de la lutte contre les dépendances et de la lutte contre l'itinérance, soutient que la province s'efforce de construire davantage de logements sans barrière d'accès. Le gouvernement néo-démocrate a logé plus de 1 000 personnes depuis novembre 2023, dont 625 étaient en situation d'itinérance. Madame Smith dit avoir pu constater de ses propres yeux ce qui peut arriver lorsque le logement offert ne répond pas aux besoins des gens. Citation. Je me rends dans un refuge et je rencontre quelqu'un qui a été logé, relate-t-elle. 6 mois plus tard, j'y retrouve la même personne. Fin de citation. Pour Teresa Bauer, un logement qui tiendrait compte de ses besoins spécifiques changerait sa vie. « Tout ce que nous voulons, c'est un endroit sûr », dit-elle. C'était « Les campements de fortune sont-ils légaux dans les espaces publics ?» un texte de Richard Sabé, d'après un texte original d'Emily Brass, paru le 12 septembre 2024 sur Ici Manitoba.
Chaos, crime et châtiment chez les dieux de l'Olympe. Un texte de Benoît Mignot, paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Ici, le panthéon des dieux de l'Olympe était toujours au centre de notre existence et gouvernait chacune de nos pensées. C'est sur cette prémisse que se fonde Chaos, une nouvelle série de Netflix qui présente une relecture intelligente et cynique des récits de la Grèce antique. Le résultat est délicieusement barbare. Tout se déroule bien dans la cité d'Héraclion. Les fêtes annuelles entourant la célébration de Zeus marchent comme sur des roulettes. Une femme s'est offerte avec enthousiasme en sacrifice humain et Minos, le premier ministre du régime totalitaire en place, va inaugurer un monument à la gloire du dieu suprême de l'Olympe. À la consternation générale, en lieu et place d'une œuvre grandiose, les rideaux s'ouvrent plutôt sur une montagne de merde. Zeus, Jeff Goldblum, remarque alors l'apparition d'une ride sur son front et craint qu'elle annonce la réalisation d'une prophétie augurant sa chute. Il n'aura alors de cesse que de tuer dans l'œuf cette insurrection humaine, qui est à raser la moitié de la planète. Ce qu'il ignore, c'est qu'un plan savamment orchestré se dessine dans l'ombre. Relaté par Prométhée, Stephen Delane, enchaîné à un rocher où son foie est chaque jour dévoré par un aigle, le dieu déchu brise le quatrième mur et expose les aléas des querelles entre les humains et les dieux, ainsi que la mécanique du plan qu'il a savamment orchestré. Dionysos, Nabane Rizwan, tente d'oublier la remarque acerbe d'Héra, épouse et sœur de Zeus, à son endroit, disant que ce n'est pas un drame d'être quelqu'un d'insignifiant. Il décide de prouver sa valeur en orchestrant du jamais vu, la remontée des enfers d'un être humain. Pour ce faire, il s'acoquine avec Orphée, Killian Scott, qui pleure la mort récente de sa compagne Eurydice, Aurora Purino. Le royaume des morts cache cependant de multiples périls et mensonges au cœur d'une structure administrative abrutissante. Sénée, finement interprétée par l'acteur trans Mysia Butler, il travaille comme sous-fifre et découvre bientôt ce qui se cache derrière les promesses d'une éternelle renaissance. Pendant ce temps, Ariane, fille de Minos, met à jour les secrets se cachant derrière l'arme ultime d'Héraclion, le terrifiant Minotaure. Qu'on se rassure, bien que la mythologie grecque soit relativement complexe sur papier, la série en présente une relecture simplifiée, mais toujours surprenante. La conclusion de l'épisode 1 laisse d'ailleurs pantois. Le rythme est soutenu et les enjeux et les tensions sont on ne peut plus palpables. Jeff Goldblum interprète avec virtuosité un Zeus à la fois cruel et benêt, qui se débat au cœur d'une paranoïa sur sa mort annoncée et d'une famille complètement dysfonctionnelle, tout en évoquant distraitement la destruction de l'humanité entre deux amuse-gueules. La qualité de la représentation queer est à souligner, qu'il s'agisse du polysexuel Dionysos, de Thésée et de son amant Astyanax, du couple formé par Prométhée et Charon, ou de Sénée qui offre un portrait nuancé de la transidentité. La série n'hésite également pas à pleinement assumer l'aspect dramatique ou déchirant de ses racines mythologiques, tout en y incorporant un nouveau souffle. Je pense notamment à une relecture déchirante du mythe du Minotaure. Sans aucun doute, une série d'exceptions ou trouvailles visuelles, mises en scènes inventives, pastiches de séries des années 80 et récits déchirants ou vitrioliques se bousculent devant nos yeux. Elle a également le mérite de poser un regard critique sur les systèmes religieux ou politiques qui nous gouvernent. on ne peut qu'espérer une seconde saison puisqu'elle se conclut sur de nombreux points de suspension. Info. Les 8 épisodes de Chaos sont présentés sur Netflix en anglais et dans un excellent doublage français. C'était Chaos, crime et châtiment chez les dieux de l'Olympe. Un texte de Benoît Mignot paru le 26 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Ce qui a changé depuis Marie-Victorin. Un texte de Mathieu Perrault paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. À l'été 2023, le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » de Lynn Charlebois a ravivé l'intérêt envers le frère Marie-Victorin. Le fondateur du Jardin botanique de Montréal est aussi l'auteur de « Flore Laurentienne », un ouvrage dans lequel il décrit plus d'un millier de végétaux. Depuis sa publication en 1935, combien d'espèces ont disparu et combien ont été découvertes? Des centaines d'ajouts. Flore Laurentienne s'intéressait surtout à la vallée du Saint-Laurent, note le conservateur actuel de l'herbier Marie-Victorin, Étienne Léveillé-Bourret. Il y a plein d'espèces du Grand Nord qui ont été identifiées depuis, qui n'auraient pas pu être dans la flore laurentienne parce qu'elles sont hors de son territoire. Le nombre d'espèces de plantes au Québec est aujourd'hui plus de 2 fois plus élevé que ce qui était décrit dans flore laurentienne. 3 500 contre 1 500. Un millier d'espèces ont été identifiées depuis la dernière édition de flore laurentienne, en 1995. De ces ajouts, la majorité sont de nouvelles espèces indigènes, précise M. Léveillé-Bourret. Entre 1995 et maintenant, il y a eu 261 espèces exotiques identifiées et 744 nouvelles espèces indigènes. Et quelques disparitions. Le nombre de disparitions est beaucoup moins élevé. Selon le décompte de M. Léveillé-Bourret, seulement 8 espèces ont disparu entre 1995 et aujourd'hui. Souvent, les espèces ici sont à l'extrémité nord de leur aire de répartition, signale M. Léveillé-Bourret. S'il y a de l'urbanisation ou d'autres perturbations, elles sont plus vulnérables qu'aux États-Unis ou qu'en Ontario, où elles restent souvent abondantes. Le frère Marie-Victorin a aussi fait certaines erreurs. C'est le cas avec Carex mesocorea, disparue au Québec. Elle n'était pas mentionnée dans Flore Laurentienne, mais il l'avait récoltée. Il l'avait mal identifiée. Alors, on sait qu'elle était au Québec dans les années 1920 ou 1930, mais elle n'y est plus maintenant. Carex mesocorea est toutefois abondante en Ontario et aux États-Unis. 3 éditions. Une première révision de Flore Laurentienne est publiée en 1964, avec des vignettes signalant les modifications. Une troisième l'est en 1995 avec des notes dans la marge. Personne n'a fait la liste détaillée de ce qui a été modifié, dit M. Léveillé-Bourret. Le temps est arrivé d'une nouvelle édition, selon M. Léveillé-Bourret. On a encore les illustrations de 1935, dit-il. Il faudrait repartir à neuf. Le financement des herbiers universitaires est toutefois difficile. Il y a du soutien public pour les collections des musées, mais pas pour les herbiers de recherche. L'herbier Marie-Victorin du Jardin botanique est ouvert au public tous les mercredis. Techniquement, il appartient à l'Université de Montréal et non à la Ville de Montréal. Les autres herbiers. L'herbier Marie-Victorin est le 4e en importance au Canada, selon Isaac Eckert, biologiste de l'Université McGill, qui vient de publier une étude dans Nature Communication sur la numérisation des herbiers. Un herbier à Québec a une collection un peu plus importante et deux herbiers en Ontario, au Musée Royal à Toronto et à Agriculture Canada à Ottawa, compte plus de 1 million de spécimens contre les 750 000 de l'herbier Marie-Victorin. Aux États-Unis, l'herbier de l'Institut Smithsonian à Washington est beaucoup plus important, avec plus de 5 millions de spécimens. Qui était Marie-Victorin? Née Conrad Kirouac en 1885, le frère Marie-Victorin a grandi à Québec. Il est entré chez les Frères des écoles chrétiennes à 16 ans. Pendant une convalescence en raison d'une tuberculose, il consulte « Flore canadienne », publié en 1862 par le père Léon Provencher. Cette nouvelle passion pour la botanique le mène à l'Université de Montréal en 1920, où il fait partie des professeurs de la nouvelle faculté des sciences, même s'il est autodidacte. Flore Lalancienne est publiée en 1935 et Marie-Victorin meurt en 1944, juste après avoir réussi à créer le Jardin botanique de Montréal. Numériser les herbiers. La numérisation des herbiers facilitera les études sur la biodiversité, notamment parce qu'ils permettront d'estimer les changements survenus depuis plus d'un siècle, selon M. Eckert. En plus, les premiers herbiers avaient souvent des notes sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Leur numérisation permettra de valoriser la science autochtone. En savoir plus? 380 000. Nombre d'espèces de plantes connues dans le monde. Source, institution Smithsonian. 17 000. Nombre d'espèces de plantes connues au Canada. Source, Environnement Canada. C'était « Ce qui a changé depuis Marie-Victorin », un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.